Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. On poursuit en ce dimanche notre série d'études sur le livre de Job. On est donc à la troisième série, à la troisième prédication d'une série probablement de cinq messages. On a vu lors du premier message comment Dieu était fier de Job, cet homme intègre et droit. Et comment Dieu, sûr de son fait, semble faire un pari face à Satan. Il autorise Satan à faire tout ce qu'il veut de Job, à condition de ne pas attenter à sa vie. L'objet du défi, c'est de savoir si Job aime Dieu par intérêt ou si Job aime Dieu d'un cœur sincère. Dans la tête de Dieu, semble-t-il, il n'y a aucun doute. Le titre de ce premier message était « Souffrir, mais souffrir pour la gloire de Dieu ». On a résumé la fois précédente les échanges de Job et de ses trois amis venus le consoler. Et on a vu comment ils ont pu être, malgré toute leur bonne volonté, de bien mauvais consolateurs. Puisque selon leur doctrine, si Job souffre autant, c'est parce qu'il a quelque chose de mal, un péché très très fort caché dans sa vie. Et Dieu le punit pour ça. L'idée, c'est de dire que le péché de Job est proportionnel à sa souffrance. Et là, Job refuse et proclame son innocence. On a vu que le Nouveau Testament nous donne l'exemple de la patience de Job dans l'épreuve qui dure. C'est en cela que nous pouvons nous inspirer de l'exemple de Job. Plusieurs chapitres durant, Job va répondre à ses trois amis. Et au final, ses trois amis vont rester sans voix. Et Job semble avoir gagné cette confrontation avec ses trois amis. Et on retrouve Job au chapitre 31. Aujourd'hui, on méditera le chapitre 33, mais je dis tout cela en guise d'introduction. Parfois, les introductions peuvent être un peu longues. Au chapitre 31, on voit Job qui se souvient de sa vie passée, de son attitude, de sa conduite. Et là, on comprend concrètement quelle était la vie de Job que Dieu aimait tant. Job est intègre et droit. Oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? On ne peut pas lire en entier ce chapitre 31, mais si vous l'avez sous les yeux, vous pouvez lire chapitre 31, Job, verset 5. « Ai-je vécu dans le mensonge? Mon pied s'est-il hâté pour commettre la fraude? Que Dieu me pèse sur la balance juste, et Dieu lui-même constatera mon innocence. » Verset 9. « Si je me suis laissé séduire par une femme, ou si j'ai fait le guet devant la porte de mon voisin, car alors ma femme tourne la meule pour un autre, et qu'elle soit livrée aux désirs d'autres hommes. » Verset 13. « Si je n'ai pas fait droit à ma servante ou à mon serviteur, quand avec moi ils avaient un litige, je ne saurais que faire quand Dieu se lèvera pour me juger. Je ne saurais que lui répondre quand il demandera des comptes. » Verset 16. « Me suis-je donc soustrait aux requêtes des pauvres, ou bien ai-je déçu le regard plein d'espoir des veuves ?» Verset 19. « Ai-je vu l'indigent privé de vêtements et le nécessiteux manquant de couverture sans leur donner une occasion de me bénir pour avoir pu se réchauffer sous la toison de mes brebis ?» Verset 24. « Ai-je placé ma confiance dans l'or? Ai-je dit à leur fin, tu es mon assurance ?» Verset 29. « Ai-je trouvé plaisir à voir mon ennemi plongé dans l'infortune ?» etc. etc. Et là, on est amené à comprendre que Job se souvenant de sa vie passée, nous raconte comment il se comportait avec les veuves, les orphelins, avec même ses serviteurs, avec les pauvres. Jamais il ne laissait ses yeux se remplir de désir face à la femme d'un autre. Tout cela nous permet de comprendre très concrètement ce que ça veut dire que Job est intègre et droit. Et Dieu aime ça. As-tu vu mon serviteur Job intègre et droit dans toute sa conduite? Nous pouvons prendre l'exemple de cette vie de Job, soucieux de l'autre. Il était riche, mais il dit, je n'ai pas mis ma confiance dans l'or. Non, j'ai partagé mon pain avec les pauvres. Et donc Job ne comprend pas pourquoi aujourd'hui il lui semble que Dieu l'abandonne. Apparaît donc un nouveau personnage dans ce livre de Job. Chapitre 32. Comme Job persistait à se considérer juste, ses trois hommes, donc ses trois amis, cessèrent de lui répondre. Alors Éliou, fils de Barakel, de Bouze et du groupe familial de Ram, se mit en colère. Il se mit en colère contre Job, parce que celui-ci se disait plus juste que Dieu. Il était aussi en colère contre ses trois amis, parce qu'ils n'avaient pas trouvé comment lui répondre et qu'ils avaient ainsi condamné Dieu. Éliou avait entendu avant, plutôt, il avait attendu, oui, avant de s'adresser à Job, parce que les trois amis étaient plus âgés que lui. Mais lorsque Éliou s'aperçut qu'il n'avait plus rien à lui répondre, il se mit en colère. Éliou, fils de Barakéel de Bouze, prit donc la parole et dit. Il s'ensuit une longue introduction et nous allons lire donc le fond de sa pensée au chapitre 33 et quelques versets du chapitre 36. Jusque-là, ce jeune Éliou avait laissé les aînés répondre à Job. Il assistait là à quelque chose qui ressemblait à un procès. Job qui semble un peu critiquer Dieu de l'abandonner de manière injuste, et les trois amis qui prennent la défense de Dieu et qui disent, mais écoute, oh, si Dieu te fait ça, c'est bien parce que tu le mérites. Et donc, ce dialogue, il se rend compte que mais c'est Job qui a le dernier mot. Du coup, il est en colère. Dans le cœur d'Éliou, c'est comme si Dieu avait perdu cette espèce de procès. Les amis de Job, qui étaient censés défendre Dieu, semblent avoir perdu cette discussion. Aussi, malgré son jeune âge, il décide de prendre la parole. Et voici ce que Éliou, le plus jeune du groupe, a à dire. Faisons attention à ne pas mépriser la parole des plus petits. Faisons attention à ne pas mépriser la parole des enfants. Job chapitre 33. Maintenant, Job, veuille écouter mon propos, je te prie, et prête bien l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche et ma langue s'exprime. Mes mots proviennent d'un cœur plein de droiture. Ma bouche exposera la science en toute vérité. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Si tu peux, réponds-moi, prépare ta défense et prends position devant moi. Car voici, devant Dieu, je suis semblable à toi. J'ai été comme toi, façonné dans l'argile. Ainsi, tu ne trembleras pas de frayeur devant moi et je ne t'écraserai pas. Verset 8. Tu as dit devant moi, et j'ai bien entendu le son de tes paroles. Je suis irréprochable, et je n'ai pas commis de transgression. Moi, je suis innocent, et je n'ai rien fait de mal. Cependant, Dieu invente contre moi des prétextes, et il me considère comme son ennemi. Il a mis mes pieds dans des fers, et il surveille tous mes pas. Et Éliud de répondre au verset 12, en cela, tu n'as pas raison. Laisse-moi te le dire. Car Dieu est bien plus grand que l'homme. Marquons une pause ici. Éliud prend la parole et exprime le sujet de sa colère. Qu'est-ce qui l'énerve, ce jeune? Ce qui l'énerve, c'est ce qu'il exprime au verset 8 et 9. Oui, mais j'étais entendu, Job. C'est pas possible. Tu prétends être irréprochable. Tu n'as commis aucune transgression. Toi, Job, tu prétends que tu n'as commis aucun péché. Et c'est ça qui l'irrite. On n'a pas pu lire tous les chapitres précédents. Mais en réalité, quand on les lit avec attention, on se rend compte que Job n'a pas tout à fait dit ça. C'est un des amis de Job au chapitre 11 qui résume la pensée de Job en disant, mais dis donc si je comprends bien Job, tu veux nous faire croire que toi tu es sans péché. Mais en réalité, ce n'est pas Job qui le dit. Et on le lit au chapitre 13, Job chapitre 13, versets 23 et 24. Job s'adressant à Dieu, Job chapitre 13, versets 23 et 24, Job dit, « Combien ai-je commis de péchés et de fautes? Fais-moi connaître mes péchés et mes transgressions. Pourquoi détournes-tu ton visage de moi? Pourquoi me considères-tu comme ton ennemi ?» Dans le feu de l'action, dans l'intensité des échanges avec ses trois amis, Job pouvait laisser croire qu'il se prétendait sans péché. Mais quand il se ressaisit et s'adresse à Dieu, il est conscient qu'il ne peut être face à Dieu sans péché et sans transgression. Aussi supplie-t-il Dieu de dire « Oui, mais montre-moi mes fautes, montre-moi mes transgressions, montre-moi mes péchés. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi me traites-tu comme si j'étais ton ennemi ?» Là, je soulève un point important, parce que des fois, on discute, on parle beaucoup, mais on ne se comprend pas forcément. Job n'a jamais prétendu qu'il était sans péché. Mais c'est ce que Éliud a retenu. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans la discussion a résumé ainsi les propos de Job. Apprenons à nous écouter les uns les autres avec précision. Montre-moi, Seigneur, mes péchés et mes transgressions. Pourquoi es-tu silencieux? Pourquoi me traites-tu comme un ennemi? Et à cela, Éliud va apporter deux réponses. On revient donc au chapitre 33, les versets 14. Voilà, 14 à 18. Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver de l'orgueil. Ainsi, le garde-t-il hors de la fosse ou hors de la tombe, il le préserve des coups du javelot. Voici donc une première réponse d'Éliud. Job semblait dire, Dieu me traite en ennemi. Dieu ne me répond pas. Je lui pose des questions et je n'entends rien. Je ne fais que souffrir en longueur de journée. Éliud répond, attention, Dieu parle, Dieu te parle. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dommage que les hommes n'y prennent pas garde. Et notamment, Dieu parle par des songes et des visions. Job avait dit que, plusieurs chapitres précédents, Job disait qu'il n'arrivait pas à dormir, tellement il était tourmenté. Qui sait si Dieu voulait te parler à ces moments-là? As-tu bien écouté? Dieu parle en songe, Dieu parle en vision. Plutôt que de te plaindre, dresse l'oreille. Et quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu a souvent parlé en songe et en vision. Genèse chapitre 20, verset 6, on voit un certain Abimélec voulait prendre pour femme Sarah, qui était en fait la femme d'Abraham. Mais pour une raison, peut-être qu'il a eu un peu peur, Abraham l'a présentée comme sa sœur. Du coup, l'autre Abimélec, il s'est dit, ah ben chouette, elle me plaît bien, ben, je la prends pour femme. Il ne perd pas de temps. Et Dieu lui parle en songe et en vision. Touche pas à cette femme, parce que c'est la femme de mon serviteur Job. Laban, l'oncle de Jacob, non content d'avoir fait travailler Jacob 14 années, poursuit Jacob qui a réussi à s'enfuir avec toute sa famille. Genèse chapitre 31, verset 24, Dieu lui dit, attention, ne fais aucun mal à Jacob, car il est mon serviteur. On a fêté Noël il n'y a pas longtemps. On a vu que même dans le Nouveau Testament, Dieu parle aussi combien de fois en songe, en vision. Je retiens un seul épisode puisqu'il est très lié au contexte de Pâques. La femme de Pilate, vous vous souvenez? Tourmentée pendant la nuit, qui vient dire à son mari, attention, ne te mêle pas de cette affaire de ce Jésus-là. Non, parce que j'ai été tourmentée toute la nuit, je n'ai pas pu dormir pour ça. Et on sent Pilate qui est troublé, qui veut se laver les mains de cette histoire parce qu'il sent que ce n'est pas bon cette affaire-là. Malheureusement, il n'ira pas jusqu'au bout. Et Jésus sera bel et bien tué. Les exemples sont nombreux. Dieu parle en songe et en vision. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui en songe et en vision? Que le peuple de Dieu n'en doute même pas une seconde. Les témoignages sont tellement nombreux de conversions. Par exemple, dans des pays musulmans où Dieu se révèle puissamment par des visions confirmées, par des confessions. Prêtons l'oreille. Cependant, toutes les visions, les songes ne sont pas forcément de Dieu. Le cœur de l'homme est bien pervers. Et c'est des fois nos propres désirs que nous pouvons, je dirais, des fois revoir ou voir en rêve. C'est pour cela que à la vision, au songe, doit s'ajouter la prière. Si ça vient de Dieu, alors Dieu le confirmera selon sa souveraine volonté. Il n'empêche que Dieu parle encore aujourd'hui par des songes et des visions. Alors Job, es-tu sûr que Dieu ne t'a pas parlé en songe et en vision? Deuxième réponse d'Éliou. On va lire les versets 19 à 30. Ou encore, Dieu corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur sa couche. Lorsque ses os s'agitent sans arrêt, le voilà dégoûté de toute nourriture. Il n'a plus d'appétit pour les mets les plus fins. La chair sur son corps dépérit. Elle ne se laisse plus voir. Et ses os qu'on ne voyait pas sont maintenant saillants. De la fosse ou de la tombe, c'est le même mot. Il s'approche et sa vie est livrée aux anges de la mort. Mais s'il se trouve auprès de lui un ange interprète de Dieu, un parmi les milliers, pour lui faire savoir quel est le droit chemin, qui a pitié de lui et qui demande à Dieu, délivre-le du gouffre, qu'il n'y descende pas, j'ai trouvé sa rançon. Alors sa chair retrouve sa fraîcheur juvénile et il revient au jour de sa jeunesse. il peut invoquer Dieu qui lui rend sa faveur. Il se présente à lui avec des cris de joie, car Dieu le reconnaît à nouveau comme juste. Il se met à chanter et devant tout le monde, il dit « J'avais péché et perverti le droit et je n'ai pas subi ce que je méritais, car Dieu a délivré mon être de la fosse. Il a maintenu ma vie dans la lumière. » Vois, Dieu fait tout cela deux fois, trois fois pour l'homme, pour le détourner de la tombe et pour l'humilier, et pour l'illuminer de la lumière des vivants. Deuxième réponse de Job, là cette fois-ci, bien plus détaillée. Comment résumer tout ça? Qu'est-ce que Elihu veut nous faire comprendre? Il a commencé par dire que Dieu parle en songe. Dieu parle en vision. Mais Dieu parle aussi à travers la souffrance de l'homme. Et si Dieu le fait, c'est pour corriger l'homme qui a péché. J'avais péché, crie cet homme. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas reçu ce que je méritais. Cet homme, il nous a dit, était proche de la mort. Mais c'est alors que si un ange, parmi les milliers d'anges que Dieu a, si un ange s'approche de lui dans cette souffrance, s'il s'approche de lui, cet ange interprète de Dieu. Et que cet ange lui montre le bon chemin à suivre. Et que cet homme écoute. Alors, cet ange-là, ayant pris le parti de cet homme que Dieu a fait souffrir pour qu'il soit corrigé, cet ange-là se tourne vers Dieu et dit, délivre-le du gouffre, délivre-le de la mort. Qu'il n'y descende pas. J'ai trouvé une rançon. Et visiblement, Dieu l'accepte volontiers. Et puis cet homme est rétabli, est restauré. Au verset 26, Dieu le reconnaît à nouveau comme juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Elihu nous parle de milliers d'anges qui sont apparemment des interprètes de Dieu, comme des médiateurs. Ces anges sont des serviteurs de Dieu. Mais Elihu nous dit que c'est Dieu lui-même qui corrige l'homme qui s'égare dans le péché, dont le péché conduit à la mort. C'est Dieu qui le corrige. Donc je comprends que c'est Dieu qui lui envoie un ange, parmi les milliers d'anges que Dieu a à sa disposition, Dieu lui en envoie un. Pour que cette fois-ci, cloué dans son lit par la souffrance, l'homme n'ait pas d'autre choix que d'écouter. Et s'il reçoit le message de l'ange qui lui montre le droit chemin, qui lui dit, attention, tu partais comme ça. Non, Dieu veut que tu fasses comme ça plutôt. S'il écoute, alléluia. L'ange du coup se retourne vers Dieu et dit, mais délivre-le, qu'il ne meure pas. Cependant, c'est facile à dire, délivre-le, qu'il ne meure pas. Mais le salut de cet homme a un prix à payer. Et c'est pour ça que l'ange se présente devant Dieu avec une rançon. Une rançon que Dieu agrée, que Dieu accepte. Si je résume tout ça, je me dis, mais Dieu parle par la souffrance. Il permet la souffrance dans l'homme qui s'égare dans le péché. Il le corrige ainsi. Dieu envoie un ange pour que cet homme écoute et change. Et Dieu accepte la rançon que cet ange que lui-même il a envoyé présente. Mais Dieu fait tout dans cette histoire. Dieu fait tout. Elihu de dire à plusieurs reprises, Dieu le fait pour préserver tes pas de la tombe. Le mot tombe, le mot fosse revient à plusieurs reprises. Verset 18. Ainsi le garde-t-il hors de la tombe. Verset 24. Délivre-le du gouffre ou de la tombe. C'est le même mot. Et j'ai même le verset 22. De la fosse, il s'approche. Verset 28. Car Dieu a délivré mon être de la fosse, de la tombe. Verset 30. Pour le détourner de la tombe. Ah, mais dis donc, ça revient comme ça, comme un refrain. Et je comprends que Dieu ne veut pas que l'homme pécheur meure. Aussi, Dieu est prêt à payer et à recevoir une rançon pour que la vie du pécheur soit sauve, à condition qu'il écoute. Chapitre 36, versets 10 à 15. Eliou va développer un peu plus cet argument. C'est visiblement son argument le plus fort, parce que c'est ce sur quoi il va le plus passer du temps. Job chapitre 36, versets 10 à 15. Il parle de Dieu là. Il ouvre leurs oreilles aux avertissements et il leur dit, détournez-vous du mal. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur et leurs années s'achèvent dans les délices. Mais s'ils n'écoutent pas, ils auront à subir les coups du javelot et ils expireront faute d'avoir reçu la connaissance. Quant à ceux qui rejettent Dieu, ils garderont leur colère. Pardon, ils gardent leur colère. Ils ne crient pas à l'aide quand ils les lient de chaînes. Aussi leur vie s'éteint en pleine fleur de l'âge. Ils la terminent parmi les prostituées sacrées. Mais Dieu délivre l'affligé par son affliction même. Et c'est par la souffrance qu'il le dispose à l'écouter. Dieu parle aussi par la souffrance. Dieu corrige l'homme qui s'égare par la souffrance. Et là, il y a deux possibilités. Nous dit le chapitre 36. Soit cet homme écoute et il finit ses jours dans le bonheur. J'aime ce texte de l'Ancien Testament. Il finit ses jours dans les délices. Soit il ne l'écoute pas et il termine comme les prostituées sacrées qui, pour l'époque, étaient la pire des abominations, des idolâtres qui se prostituent pour des faux dieux. Deux chemins se présentent à toi. Qu'est-ce que Dieu a à dire? Chapitre 36, verset 10. Détournez-vous du mal. Détournez-vous du mal. Détournez-vous du mal et ne mourrez pas dans votre péché. Il ne faut pas se dire que les auteurs de l'Ancien Testament sont aussi naïfs de penser que les justes ne meurent pas comme les méchants. Les bons comme les mauvais sont dans le même cimetière. Il y en a un ici à Blanc-Ménil, ce n'est pas marqué dessus, tel s'est bien comporté, tel est un criminel, tel a non. Ils ne sont pas aussi naïfs que ça. Ils savent que le sort est le même. C'est juste ce qu'on voit de nos yeux. Il se projette plus loin. Comme si, même dans le séjour des morts, il y a deux camps. Oui. Le camp de ceux qui se sont laissés corriger par Dieu, qui semblent demeurer dans le bonheur, dans les délices, dans cette réconciliation avec Dieu, même dans la mort. Et le camp de ceux qui ne se sont pas détournés du mal, qui n'ont pas écouté Dieu. Et ceux-là semblent être dans un autre camp, le camp des prostituées sacrées là-bas. J'ai trouvé une rançon pour le prix de sa vie. Voici les propos qu'Eliou met dans la bouche de l'ange. J'ai trouvé une rançon. Eliou, là, nous... Il a dit lui-même, il est façonné par l'Esprit de Dieu. Il parle de la part de Dieu. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Éliou nous donne de voir une révélation qui pour lui est quelque chose de nouveau que ni Job ni ses amis ne savaient visiblement puisqu'ils n'en ont pas parlé. Mais la suite de la révélation biblique nous montre que Éliou a entrevu d'une manière un peu floue ce que Jésus-Christ a révélé d'une manière claire il y a 2000 ans. Oui, le salut de l'âme du pécheur nécessite une rançon. Le salut de l'âme du pécheur nécessite un prix à payer. Et c'est ce que nous allons célébrer le week-end prochain. Jésus-Christ est venu. Les premiers versets de l'Épître aux Hébreux nous disent que Dieu a parlé de différentes manières à l'époque de nos pères, par des prophètes. Et puis un jour, Dieu a parlé. Pas par un ange, pas par un simple prophète, mais il a parlé par son Fils. Et ce Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Marc chapitre 10, verset 45. Je suis venu non pas pour être servi, comme un seigneur qui vient pour avoir des serviteurs à son service, mais je suis venu un peu comme l'ange d'Éliou. Je suis venu pour vous servir et offrir ma vie en rançon pour plusieurs. Éliou l'avait entrevu d'une manière vague et floue. Jésus-Christ nous révèle que, en réalité, il n'y a qu'un seul prix pour sauver le pécheur de la tombe et du gouffre. C'est le prix de la vie de celui qui est le juste par excellence, le prix du sang de Jésus, le Christ. 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul le résume si bien. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 6. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu notre Sauveur, ce qu'il approuve. Verset 4. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Et de même aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment opportun. Un seul Dieu, un seul médiateur. Pas des milliers d'anges qui servent de médiateurs, comme l'a entrevu Éliou. Mais un seul médiateur. Capable de donner le seul prix qui vaille la peine et que Dieu reçoive et que Dieu accepte pour le salut des pécheurs. Pour prendre une image, c'est comme si tous ceux qui croient en Jésus-Christ profitent de sa rançon. Jésus est celui qui a payé de sa vie. Il a payé de sa vie pour que ceux qui croient en lui lui appartiennent. Et la Bible de nous dire qu'un jour, il reviendra. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu et il reviendra. Il réveillera tous ceux qui sont morts. Debout, debout, oh, debout, debout. Et là, parmi tous ceux qui se réveilleront, Jésus dira: Stéphanie est à moi.
Amen.
Ah, c'est à moi. C'est moi qui ai payé le prix pour sa vie. Sophie, c'est à moi. Non, 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 non. Venez là. Allez. Eliane, attention. Venez, 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 venez. Un tel. Ah. Ah non, dommage. Ghislaine, ah oui, j'ai payé. Vous voyez, ça fait sourire. C'est une question de transaction que Dieu a accepté. C'est un dû. Il a payé sa vie pour quelque chose. Que dis-je? Pour quelqu'un. Au jour du jugement, il sera là et il dira, oui, c'est ma part, c'est mon peuple, c'est mon héritage. Voici notre espérance. Eliou l'a entrevu. Jésus nous l'a révélé d'une manière tellement extraordinaire. Un seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour nous. Un tel Dieu, je veux bien qu'il me corrige comme il le souhaite. Pourquoi? Parce qu'il corrige comme un père qui aime son enfant. Même si tu traverses une période de souffrance, je t'en prie, garde en esprit le fait que Jésus seul a payé le prix pour le salut de ton âme. Que la souffrance ne te détourne pas de Dieu, mais au contraire, c'est du mal qu'il faut se détourner. Je veux insister sur le fait que toute souffrance n'est pas une correction de Dieu. La preuve, c'est que c'est le cas de Job. Je reviens au chapitre 1. Jamais Dieu a dit, ah, Job prend un mauvais chemin là, j'ai besoin de lui donner une bonne fessée pour le corriger. Non, Dieu dit, mais ce Job, il me plaît beaucoup. Eliou, ce qu'il dit, c'est pas faux, mais c'est pas vrai dans la vie de Job. Toute souffrance n'est pas liée à une correction de Dieu. Mais pourtant, Job semble écouter attentivement ce que dit ce jeune homme. Et là, pour une fois, Job ne répond pas. Job ne répondra jamais à Eliou. C'est pas dit, mais j'imagine que Job a dû réfléchir. Ah. Et peut-être Job a-t-il adressé une prière à Dieu. Seigneur, si tu m'as parlé et que je n'ai pas entendu, parle-moi encore et encore. C'est Eliou qui le dit. Dieu le fait, non pas une, deux, mais même trois fois il peut le faire. Il parle d'une manière ou d'une autre, en songe, en vision, par la souffrance. Mais Dieu ne t'a pas abandonné car il parle. Je me dis que Job a dû réfléchir. Ah, mais ce jeune homme-là, ce petit frère, qu'est-ce qu'il me dit comme ça? Et Dieu va parler. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Quand on lit le livre de Job, on attend que Dieu parle à la fin de ce dialogue. Dieu parle. Qu'est-ce qu'il a à dire? Oh là là. On le verra la prochaine fois. Nous avons soif d'entendre la parole de Dieu. Que Dieu me parle par des visions, que Dieu me parle par des songes, que Dieu me parle par la souffrance. Mais je veux entendre la parole de mon Dieu. Et même quand des fois je trouve qu'il est silencieux, je lis la Bible et il me parle encore. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Prends courage et j'entends. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je vais prier.